Dans la deuxième phase de cette conférence de presse, à savoir la série des questions et réponses, nous connaissons tous la règle, vous pouvez mettre vos téléphones portables sous mode silencieux. Je commencerai par Goma, deux questions à Goma et avant de revenir ici à Kinshasa. Donc Goma, vous avez deux questions.
Merci, au fond s'il vous plaît.
Oui, M. Papi Okito du journal Écho d'Opinion. Ma question, je l'adresse à M. Charles. C'est toujours par rapport à...
C'est pas M. Charles, s'il vous plaît.
M. Bass, ça fait un bout de temps qu'on vous parle. Vous étiez un peu absent. Ma question, c'est par rapport aux groupes armés. La résolution 2098 avait donné à la brigade plusieurs missions, entre autres de mener des opérations offensives ciblées pour mettre fin aux groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo, et cela seul ou avec l'appui des FARDC. Et cette brigade, vous le savez bien, M. Bass, a été bien équipée avec des drones, trois brigades, tout cela, mais jusqu'à aujourd'hui, M. Bass, on voit que la MONUSCO est toujours hors de course et la population tente toujours de subir, surtout celle de Beni, Walikale et dans le Masisi. Jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche à la MONUSCO de bien mettre en œuvre la résolution 2098? Merci.
Merci. Hormis le fait que vous me confondez à Charles Bambara, c'est vrai que j'étais absent pendant longtemps. Mais cette question, je pense qu'elle a été posée à plusieurs reprises. Évidemment, la répétition est pédagogique, donc je reviendrai là-dessus pour caler une bonne fois pour toutes cette position. Vous avez peut-être parfaitement raison de dire que aujourd'hui les choses ne se passent pas comme il se doit, parce qu'il y a encore ça et là des tueries, et ces tueries-là, évidemment, ont provoqué l'indignation que nous avons connue au cours des semaines passées, et dont d'ailleurs, je pense que le monde entier s'en est fait l'écho, non seulement au niveau du Vatican, mais au niveau des Nations Unies, au niveau des autres chancelleries, mais d'abord au niveau des populations congolaises qui l'ont ressenti de manière très dure dans leur chair, et qui ont eu d'ailleurs à exprimer leur mécontentement justement face à cette situation qui devient intenable. Il faut aussi être honnête dans ce qu'on fait et dans ce qu'on dit. Vous savez que l'engagement de la MONUSCO et des forces armées de la République démocratique du Congo n'est plus à démontrer. Vous savez aussi que cette guerre a quelque chose, ou ce combat a quelque chose de particulier, du fait que c'est une guerre asymétrique, donc qui demande des mécanismes et des modes d'action qui sont tout à fait assez spécifiques. Mais vous savez aussi que beaucoup a été fait, car n'ignorons pas qu'il y a peu de temps, l'ADF était un groupe homogène constitué ayant des bastions fortement implantés dans la région du Rwenzori, particulièrement dans le Grand Nord. Et nous avons vu que depuis le lancement de l'opération Sokola 1, des résultats significatifs, je dirais même des résultats louables, encourageants, ont été engrangés par les forces armées de la République démocratique du Congo, qui ont d'ailleurs payé un lourd tribut pour démanteler toutes ces bases fortes de l'ADF dans cette région. Donc c'est ainsi que, comme vous le savez, beaucoup de bastions, je vais en citer peut-être quelques-uns, ont été capturés. N'oubliez pas que la route entre Beni et Kamango était assez périlleuse et que personne ne s'y aventurait. Vous savez aussi que des camps comme Nadui, Nobili, Kamango, Mutuanga, Makoyoba 1, Makoyoba 2, Camp Kabila. Alors, un certain nombre de bastions ont été récupérés par les FARDC avec l'appui de la MONUSCO. On ne peut pas jeter cela aussi dans les oubliettes. Certes, aujourd'hui, l'ADF a éclaté, opère en petits groupuscules et s'attaque de manière lâche et de manière indiscriminée à toutes ces populations-là, parce que vous voyez bien que c'est non seulement des localités qui sont un peu isolées, à part celui que nous avons connu à Rwangoma tout récemment. L'ADF opère donc dans des zones reculées et s'attaque à des gens qui ne sont pas du tout armés. Oui, la brigade d'intervention a été créée pour mener des opérations offensives avec ou sans les FRDC. Mais vous savez très bien que la réalité du terrain nous commande une coopération rigoureuse, une coopération entretenue, où les informations sont partagées, mais aussi où les actions sont menées de manière conjointe ou en tout cas en soutien. Nous poursuivons ces efforts-là. Peut-être que c'est insuffisant. Et aujourd'hui, compte tenu de la dernière tuerie qui a été enregistrée à Beni, de nouveaux mécanismes sont mis en œuvre pour avoir une approche beaucoup plus holistique qui permet d'intégrer aussi bien les populations que la société civile, car la sécurité est l'affaire de tous. Seule, la brigade d'intervention n'a jamais été une panacée, on vous l'a dit, de tout temps. Elle est là, elle travaille avec les FRDC, mais comme vous le savez, c'est en mutualisant nos moyens, mais aussi en conjuguant nos efforts et avec l'appui des populations que nous arriverons à défaire définitivement l'ADF, et je pense que tout le monde s'y engage. Merci. Donc je prends une deuxième question à Beni, à Goma, excusez-moi.
Oui, on prend une question, monsieur.
Moi, c'est Jérémy. Je répète ce qu'ont dit certains députés à Beni et que la MONUSCO serait impliquée dans la balkanisation de la RDC. Je cite notamment la députée nationale Mbambou Mouli. Quelle est votre réaction par rapport à ça?
Oui, excusez-moi, je ne me permettrai pas de commenter les déclarations d'un député. Vous savez, comme on dit, chacun peut interpréter ce qu'il veut dire, mais je veux tout simplement préciser que de mon point de vue, cette accusation semble un peu grotesque dans la mesure où vous savez très bien, vous qui avez posé cette question, vous savez très bien que la MONUSCO n'est pas là pour procéder à la balkanisation de la République démocratique du Congo, parce que sinon on n'aurait pas laissé des vies humaines aussi ici dans cet effort de consolidation de la paix, car beaucoup a été fait et aujourd'hui il suffit tout simplement de poursuivre cet effort. Je serais bien curieux par contre de savoir quel est le mode opératoire qui a été mis par la MONUSCO pour procéder à la balkanisation de la RDC, car nous ne travaillons pas seuls, nous travaillons avec les autorités congolaises, nous travaillons avec les forces armées de la République démocratique du Congo, nous laissons des hommes sur le terrain justement pour apporter notre contribution à la consolidation de la paix. Donc je pense que vraiment cette question n'a pas même lieu d'être posée. Donc je reviens ici tout de suite à Kinshasa pour prendre deux questions. Une à gauche, une à droite. Je préfère commencer par une dame. Là-bas, donnez le micro là-bas, oui. Symphorien. Symphorien, j'espère que tu vas pas kidnapper le micro cette fois-ci. Je reste vigilant. Oui, madame, allez-y.
Merci, c'est Aline Engwe du journal Tchoukoudou. Monsieur Bassé, depuis plus d'une semaine que le rebelle Riek Machar, ancien vice-président du Sud-Soudan, est sur le sol congolais. Nous apprenons que ces éléments armés circuleraient sur notre territoire, notamment dans certaines zones frontalières avec la RDC. Est-ce que la MONUSCO peut-elle nous dire si elle avait pris soin de désarmer tous ceux qui ont accompagné Riek Machar avant de le remettre aux autorités congolaises? Et la deuxième question...
Une seule question. S'il vous plaît, une seule, donnez la chance aux autres aussi de poser leurs questions. Oui, madame, d'abord, je suis surpris de savoir que Riek Machar serait encore ici en République démocratique du Congo. La question que je suis tenté de vous poser, avez-vous contacté les autorités congolaises? Parce que n'oublions pas que nous sommes dans un État souverain et que on n'entre pas dans un pays comme ça de manière hasardeuse. Et je pense que en vous rapprochant peut-être des autorités congolaises, vous aurez beaucoup plus d'informations, parce que je pense que la DGM et les autres services étatiques s'occupent bien de ces mouvements transfrontaliers. Maintenant, parlant d'hommes armés qui seraient en République démocratique du Congo, je pense que c'est une déclaration sérieuse. Personnellement, je suis pas au courant d'hommes armés qui seraient venus avec Riek Machar et qui seraient en territoire congolais. Mais je suis persuadé que les autorités congolaises, si toutefois cette information se révélait exacte, les autorités congolaises auront pris toutes les mesures idoines pour sécuriser les populations congolaises et assurer l'intégrité des frontières de ce pays-là. Donc c'est ce que je peux vous dire de manière très globale concernant cette histoire. Donc je prends une deuxième question sur la droite. Oui.
Guy Oloumé, RTNC2 Développement, Madame Marshall, qu'est-ce qui expliquerait la recrudescence de toutes ces épidémies en RDC? À la même période, hier, Ebola, aujourd'hui, fièvre jaune, en même temps, choléra. Qu'est-ce qui se passe, madame?
Je crois que la semaine dernière, le docteur Diallo, dans son intervention à l'occasion de la journée mondiale de l'aide humanitaire, a un petit peu parlé de ça. La recrudescence des épidémies est aussi liée au fait que les structures de développement ne sont pas toutes fonctionnelles, ne sont pas toutes en place et fonctionnelles dans les différentes zones de santé. Ensuite, il y a à Calémie, par exemple, on sait que s'il y a des problèmes avec l'eau, l'hygiène et l'assainissement, c'est parce qu'il y a des problèmes pour justement faire tourner les turbines pour l'alimentation en eau potable. Donc, les raisons sont liées bien souvent à la qualité des infrastructures de base qui sont dans le pays. Et puis après, ben, comme vous le savez, l'épidémie de choléra actuellement, ben, elle galope le long du fleuve Congo parce que ça remonte. Et puis avec ce que je vous annonçais tout à l'heure par rapport à la République centrafricaine, il y a des mouvements, comme vous le savez, il y a des réfugiés de Centrafrique qui sont en RDC. Il y a des mouvements pendulaires, des mouvements journaliers entre les deux pays à travers la rivière Oubangui. Et tout ça favorise évidemment l'extension des épidémies.
Oui, merci Florence pour tous ces éclaircissements. Donc nous repartons tout de suite à Goma, mais avant d'y aller, d'ailleurs, je tiens à rappeler à tout le monde que j'ai à mes côtés M. José Maria qui est en plein chômage et qui continue ses vacances. Je pense que il y a lieu de le titiller un peu. Donc Goma, vous avez deux questions, à vous le micro.
Peut-être Goma va-t-il titiller. Monsieur.
Je réponds au nom de Caleb Kabanda, je suis journaliste indépendant. Ma question s'adresse à Madame Florence et aussi à Félix Bass pour la MONUSCO. Il y a un groupe de personnes que nous avions interviewées et qui considèrent que avec la situation humanitaire qui se passe ici à l'est de la RDC, ils considèrent que la plupart des ONG internationales sont des groupes armés de bureaux et qu'ils s'engagent à traduire en justice ces ONG pour qu'ils puissent répondre de leurs actes, parce qu'ils considèrent que 5% à 10% des faux qu'ils reçoivent, c'est ce que bénéficie la population congolaise qui est bénéficiaire, et le reste retourne aux Occidentaux et beaucoup plus aux groupes armés et beaucoup plus aux expatriés. Et aussi, ils considèrent que la MONUSCO, la mission des Nations Unies, elle vient de faire plus de 10 ans en RDC. Elle a le mandat de maintenir la paix en RDC. Au lieu qu'il y ait la paix, mais l'insécurité continue à s'accroître, et c'est des milliers de Congolais qui meurent du jour au jour, qui sont massacrés, il y a accroissance
de... Posez votre question, s'il vous plaît. Posez votre question.
La question est de savoir quelle est la réaction de la MONUSCO et des ONG internationales par rapport à cette démarche de ce groupe de Congolais qui décident, qui se préparent pour traduire ces ONG en justice et la MONUSCO en justice. Parce qu'ils disent que s'ils ne trouvent pas justice, eux-mêmes, ils vont se prendre en charge et ils pourront...
Merci, nous avons compris. Je pense que nous gagnerions tous à ne pas nous camoufler derrière des chapeaux, parce que je ne vois pas le visage. Je ne vois pas le visage qui est en train de s'adresser à nous, mais votre préoccupation est prise en compte. Florence, peut-être que vous avez quelque chose à répondre concernant ces accusations relatives aux ONG et que D'ailleurs, je pense que vous êtes sous, très bientôt sous le coup de, d'une poursuite judiciaire.
Et ce serait bien quand même que, face à la gravité des accusations, on ait plus d'indications sur la nature des personnes qui les portent. Mais j'ai à côté de moi Sylvestre d'Otcha, qui, Otcha, comme vous le savez, coordonne toute la communauté humanitaire en RDC. Donc non seulement les organisations des Nations Unies qui travaillent dans l'humanitaire, mais aussi les ONG internationales et nationales qui œuvrent pour l'assistance humanitaire dans ce pays, qui font beaucoup de choses, souvent au péril de leur vie. Et Sylvestre aura quelques éléments de réponse, si réponse il peut y avoir face à de telles accusations.
Je voudrais dire à mon ami Caleb, même derrière son chapeau, on le reconnaît bien. Je ne suis pas, d'abord, je ne suis pas très sûr que vous traduisez parfaitement le cahier des charges, notamment de la jeunesse. Du Massissi, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, c'est elle qui a exprimé un certain nombre de préoccupations. Ces préoccupations sont prises en compte dans la mesure où hier, à Goma, il y a eu une réunion entre les autorités provinciales et la communauté humanitaire, justement pour répondre à ces préoccupations qui sont soulevées par la jeunesse de Massissi. Alors, puisque vous posez, vous mélangez plusieurs choses dans votre question. Déjà par rapport au rapport entre expatriés et staff local, je dois vous dire qu'en termes de pourcentage, il y a dans nos dans les agences de Nations Unies humanitaires, aussi bien que dans les ONG humanitaires qui interviennent dans le Nord Kivu, pour ne parler que de le Nord Kivu, où vous êtes basé, il y a nettement plus de staff local que de staff expatriés qui travaillent là-dessus. Nous avons eu une mission, nous au Tcha, nous avons eu une mission dans le Massissi, où nous avons notamment rencontré ces jeunes pour leur expliquer les principes qui guident notre action. Les principes humanitaires, faudrait-il le rappeler ici, sont basés sur l'humanité, dans le sens où on dit que tout homme a droit à la vie, à l'intégrité physique, il a droit à un abri, et notre action ne fait pas de différence entre les religions, les tribus. Et dans notre action aussi, il y a un principe très important qui est l'indépendance opérationnelle. Par rapport à certains griefs qui avaient été exprimés par la jeunesse du Massissi, notamment sur le recrutement qui privilégierait des Congolais qui viendraient d'ailleurs que de Massissi, vous devez savoir que chaque fois qu'il y a des offres d'emploi, les offres sont publiques et il n'y a pas de discrimination, aussi bien les gens du Massissi que d'ailleurs peuvent postuler. Donc, cela dit très rapidement. Alors, s'il y a des procès en vue, bon, ça c'est une question de justice, hein, tout le monde est, chacun est libre, s'il se sent lésé, de saisir la justice, et les gens répondront s'il y a à répondre par rapport à ça.
Oui, merci Sylvestre. Nous restons à Goma pour une deuxième question.
Oui, monsieur.
Merci. C'est Norbert Mundula pour le compte du journal Émergence. Monsieur Félix, certains politiciens pensent que le FRDC et le casque bleu, la MONUSCO, sont dos au mur parce qu'ils combattent les ADF en se bornant plus sur le principe de guerre prôné par le droit international humanitaire. Pourtant, les ADF s'en foutent en égorgeant la population civile. Ma question est de savoir, est-ce que vous êtes prêt à sacrifier le principe de la démocratie en faveur de la paix ici au Nord Kivu?
Oui, même si votre question ne me semble pas très précise, si nous sommes prêts à sacrifier le principe de la démocratie, je vous retourne la question parce que je suis persuadé que vous connaissez mieux que moi la réponse. Concernant maintenant certaines déclarations faites par certains politiciens. Si je comprends bien votre interpellation, vous nous demandez de faire fi de toutes les règles du droit international humanitaire, de faire fi de toutes les résolutions internationales et de nous comporter de la même façon que les FRDC. Ceci est impossible. Que les ADF, ceci est impossible aussi bien pour les FRDC que pour la force de la MONUSCO. Car vous savez, dans toute structure militaire, une chose est essentielle dans la formation aussi bien des soldats que des cadres, c'est le respect justement de ces règles internationales, c'est respect du droit international humanitaire, et dans toutes les armées, on ne transige pas avec ces principes-là. Vous avez été témoin à plusieurs reprises de sanctions qui ont été prises par la hiérarchie militaire des forces armées de la République démocratique du Congo pour sanctionner certains débordements qui auraient été commis par leurs propres troupes. Donc, je peux vous dire que certes, le mode opératoire cruel, indiscriminé, odieux, lâche des ADF ne saurait nous faire tomber dans les mêmes travers que les ADF. Nous les combattrons de la manière la plus régulière, avec les moyens, avec tout l'engagement et la détermination qui aujourd'hui font avancer aussi bien les forces armées de la République démocratique du Congo que la force de la MONUSCO, et nous continuerons toujours à solliciter l'appui, le soutien, l'accompagnement des populations congolaises pour qu'ensemble nous puissions faire régner la paix dans cette région meurtrie du territoire de Béni. Donc oui, merci, je reviens tout de suite ici à Kinshasa pour prendre deux questions. Encore une fois, je vous rappelle, Monsieur José Maria est toujours en vacances à côté de moi. Il n'est pas question que cela perdure. Oui, je prends une question ici. Oui, il faut être démocrate, il faut donner la parole et la priorité aux femmes, mais aussi les hommes existent. Donc passez le micro, voilà.
RTNC de développement, Laetitia Massela. La MONUSCO pourrait-elle un jour laisser de marques distinctives dans les relations internationales en facilitant le même dialogue au Rwanda entre le FDLR et le gouvernement rwandais, ce qui pourrait apaiser la tension entre ces miliciens, leur pays d'origine et la République démocratique du Congo? Merci.
Oui, merci. Je comprends votre préoccupation, mais je tiens d'abord à préciser que la MONUSCO n'est pas déployée au Rwanda. La MONUSCO est déployée en République démocratique du Congo et a un mandat qui lui permet d'agir et d'évoluer en République démocratique du Congo, pas au Rwanda. Votre préoccupation, toutefois, est assez noble. Je pense que ceci devrait être relayé peut-être non seulement aux Nations Unies, mais aussi à toutes les bonnes volontés qui pourraient en tout cas agir dans le bon sens. Mais nous, en ce qui nous concerne, nous avons les forces démocratiques de libération du Rwanda au Congo qui commettent des atrocités contre les populations civiles. Ceci est insupportable, ceci est inacceptable, et c'est dans ce cadre-là que la résolution 2277 nous donne mandat, à côté des FRDC, à neutraliser les FDLR pour permettre le rapatriement au Rwanda d'où ils viennent. Donc ça, je peux vous le dire. Oui, une deuxième question à droite. J'avais pris à gauche. Oui, donnez.
Merci, moi c'est Flavien Moussens pour le compte de Planète Télévision. Monsieur le chef du bureau des conjoints des droits de l'homme.
Ah,
je reviens sur la situation d'hier que l'opposition a décrétée ville morte. Sur le plan général, combien de violations le bureau conjoint des droits de l'homme que vous avez documenté et les arrestations d'une manière générale en République démocratique du Congo par rapport à la situation d'hier? Merci.
Merci beaucoup. Je comprends que les vacances sont finies maintenant. Hier, nous avons enregistré 28 cas d'arrestation, 27 par les polices et un cas par les ANR. Il y avait aussi un chiffre de mineurs qui sont été arrêtés à Bundimai. À ce moment, il y a encore 11 personnes qui sont encore en détention. Je pense qu'il y a quelqu'un qui sont aussi chargé pour avoir commis des crimes de violence. Mais nous sommes en train d'examiner les dossiers et voir comment le processus continue. Les 28 cas d'arrestation ont été enregistrés à Bunjimai et à Kinshasa.
Merci. Donc, je repars à Goma pour prendre deux questions. Je pense que je prendrai la liberté de prolonger peut-être cet entretien, cet échange de 10 minutes après avoir rendu l'antenne à Radio Okapi, en prenant prétexte, bien sûr, ma longue absence et le retour pour qu'on ait un échange davantage. Donc oui, Goma, vous avez deux questions. La parole est à vous.
Ok. Merci beaucoup. Je me nomme Roberto Mutiamilimani. Je suis aussi journaliste indépendant. Ma question, c'est à M. Félix Bass. Si j'ai une bonne mémoire, Félix Bass, vous étiez d'abord le porte-parole militaire, aujourd'hui porte-parole civil. Maintenant, je vais mélanger ma question à deux volets. Donc, depuis 2001, la MONUSCO est au Congo. RCD, 1 plus 4, vous étiez là. CNDP, affaire Laurent Kunda, vous étiez là. M23, Ntaganda, Makenga et consorts, vous étiez toujours là. Aujourd'hui, ce sont les ADF qui tuent le Congo, les Congolais. Ma question est celle-ci. Ça fait au moins 15 ans que la MONUSCO est en train de nous aider pour en finir une fois pour toutes. Est-ce que vraiment, dans 20 ans, dans 30 ans, je ne sais pas, où est-ce que nous allons partir? À chaque jour, vous dites que vous êtes des partenaires à la République démocratique du Congo. Quel est le partenariat que vous... C'est ça la question. Le partenariat que vous faites entre vous et notre gouvernement. Vous parlez pour finir la guerre ou bien vous parlez pour que la guerre continue? Merci beaucoup.
Merci pour votre question. Je pense que c'est le porte-parole du porte-parole que je viens d'entendre. Mais toujours est-il que je suis heureux de constater que vous n'avez pas une seule fois dit que c'est la MONUSCO qui avait créé et le CNDP et le M23 et tous les autres groupes armés. Vous avez aussi dit que la MONUSCO est là pour aider le gouvernement congolais. Et votre question fondamentale, c'est quel type de partenariat nous entretenons avec la République démocratique du Congo. Laissez-moi d'abord vous dire que ce partenariat est multiforme et qu'il touche à tous les domaines. Je pense que là, à mes côtés, non seulement nous avons la MONUSCO, le Bureau Congolais des Droits de l'Homme, mais aussi l'équipe pays des Nations Unies, qui œuvre aussi bien dans le domaine humanitaire que dans le domaine du développement. Donc je pense que ce partenariat touche tous les aspects de la vie politique et contribue fondamentalement à assurer la sécurité humaine de manière holistique de tous les Congolais. Et c'est à cela que nous nous attelons. Ce partenariat, il est fructueux. Il est empreint de respect mutuel, il est aussi empreint d'échanges bénéfiques pour toutes les parties, et c'est grâce à ce partenariat-là que nous avons aujourd'hui significativement avancé pour atteindre les objectifs qui ont été fixés initialement, à savoir neutraliser les groupes armés, ramener la paix et la consolider, appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo et les autres services de sécurité. Et donc c'est à cela que tout le monde s'attelle, en toute bonne foi, il faut le préciser. Et donc, pour vous dire tout simplement que votre interrogation n'a pas lieu d'être dans la mesure où nous savons tous pourquoi nous sommes là. Et tous les jours, même si les choses ne vont pas au rythme que tout le monde le souhaite, tous les jours, des gens font des efforts et des résultats sont engrangés. Vous l'avez dit vous-même, le M23 était là, il a disparu, c'est justement grâce à ce partenariat. Le CNDP est de même. L'ADF, je vous l'ai dit tantôt que grâce au courage des vaillants soldats congolais appuyés par la MONUSCO, nous avons vu qu'aujourd'hui les choses avancent. Dans le territoire de Béni, c'est assez particulier, vous le savez mieux que moi. Je pense qu'il est grand temps d'ailleurs qu'on organise un voyage de presse dans cette région-là. D'ailleurs, aujourd'hui, une équipe de journalistes se rend à Béni pour visiter le camp Garlic. qui était une base logistique, un point fort des ADF qui a été reconquis par les forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que d'autres localités, Mwalika, etc. Mais vous êtes convaincu que les choses se passent. Les choses se passent. Malheureusement, il y a aussi des tueries qui sont qu'on n'a pas réussi à empêcher cette fois-ci. Mais vous ne savez pas le nombre de massacres ou le nombre d'incidents qui ont été évités justement grâce à la promptitude du déploiement des forces armées de la République démocratique du Congo et de la MONUSCO et sauver ainsi des vies. Donc ce partenariat, nous le poursuivons. Au plan militaire, vous avez vu que nous avons aussi signé un arrangement technique au mois de janvier et nous sommes en train de reconsidérer cet arrangement technique et en y apportant des faits nouveaux ou en tout cas des mécanismes de pré-alerte qui nous permettent de réagir à temps et de sauver des vies humaines. Donc voilà ce que je peux vous dire pour ce partenariat. Il est fructueux, il suit son chemin et dans un respect mutuel et dans un échange et un esprit constructif. Oui, merci. Donc, je prends une... Ok, au fond, là-bas, celui qu'on ne voit pas. Oui. Donnez au fond. Ouais. Oui, posez la question.
Emmanuel oui, Dabi, du journal Opinion. Lève ma question s'adresse à José Maria,
pas, là.
Du droit de l'homme.
Oui, merci.
Oui, ma question s'adresse à José Maria des droits de l'homme. Je voudrais lui poser la question si ils sont fiers de leur valeur ajoutée ici en République démocratique du Congo du point de vue droits de l'homme, parce que les droits de l'homme sont violés au quotidien, on ne se limite qu'à dénoncer. Est-ce que vraiment vous êtes fiers de votre valeur ajoutée ici en République démocratique du Congo? Il y a eu démarrage du comité préparatoire hier, l'opposition n'en veut pas, et quelle est votre position par rapport à ça? Merci.
Merci. Rosé Maria.
Merci beaucoup. Je pense que la nature du travail des bureaux conjoints des Nations Unies, de la présence des droits de l'homme à la RDC a évolué, même que la situation des droits de l'homme a évolué depuis longtemps. Et les défis ont changé. La situation c'est très différente que... le moment que le bureau était établi à l'année 96 du siècle passé. À ce moment, même si la situation a changé, a évolué beaucoup, il y a encore beaucoup de défis en matière de protection des civils, défis en matière de protection des droits et libertés fondamentales, défis en matière de consolidation institutionnelle. C'est tout ça qui sont les processus que nous sommes en train d'accompagner. C'est pour ça que notre présence a changé, a été réduite et s'adapter à la situation changeante du pays. Je ne suis pas en position de commenter, de donner une opinion du processus de dialogue. Mais comme vous bien savez, ça fait 3 semaines que le haut commissaire des droits de l'homme a visité l'RDC. Et dans le cadre de sa visite ici, il a posé une liste de mesures de confiance qui sont nécessaires pour doter les processus de dialogue et les processus de sélection de crédibilité et qu'ils sont tous des relations avec les droits de l'homme. Ça veut dire arrêter tous les processus d'arrestation illégale, permettre les manifestations de l'opposition et aussi de la majorité, l'éradication de l'usage des armes létales dans le cadre des contrôles des manifestations, arrêter la manipulation et l'instrumentation de la justice. Et je pense que ça c'est la valeur ajoutée du bureau à ce moment. Et les liaisons qu'il a avec les processus très importants de la réalité de l'RDC. D'un côté, la protection des civils à l'Est. Et je vous rappelle que le bureau conjoint des Nations Unies, c'est le point focal de la protection civile dans le système des Nations Unies. Et dans le reste du pays, les monitoring reporting, les appuis aussi au processus de consolidation des libertés fondamentales. Ça, c'est le mandat qui nous était donné par le Conseil de sécurité.
Oui, merci. Donc, je pars tout de suite à Goma pour une question à Goma. Goma. Apparemment, nous avons des problèmes techniques avec Goma.
Oui, ouais, bon. Ma question s'adresse à Sylvestre et à la communauté humanitaire. Depuis le début du mois de juillet, il y a des hostilités au Soudan du Sud. Il y a également... Ça passe?
Oui, oui, on vous entend.
Ouais. Oui, j'ai dit que c'est Fiston Mahamba de l'agence de presse Anadolu. Et ma question s'adresse à Sylvestre pour les comptes d'Outia. Depuis le début du mois de juillet, il y a des hostilités au Soudan du Sud et l'entrée des réfugiés dans les provinces congolaises du nord, frontalière avec le Soudan du Sud. Est-ce que Outia dispose des statistiques sur ces entrées et quelle est la situation humanitaire dans les zones d'accueil?
Je ne peux pas vous donner la statistique exacte en ce moment. C'est vrai que depuis un temps, on recueille des réfugiés sud-soudanais. Dans le Haut-Tuilé, on serait autour de 20 000, mais c'est des chiffres que je dois vous préciser. Et il y en a qui sont dans les communautés d'accueil et le HCR et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Programme alimentaire mondial ainsi que certains partenaires sont positionnés pour l'évaluation de la situation et apporter une réponse. Mais je peux vous donner nettement plus de détails si vous nous contactez après cette conférence ou vous contactez directement le Haut Commissariat de... Voilà, Florence a les chiffres.
Voilà, au 18 août 2016, il y avait 7119 ménages de 20 945 individus enregistrés. Donc à peu près 20 000 personnes au 18 août 2016 selon le HCR.
Merci Florence. Une dernière question courte ici à Kinshasa. Alors très courte parce que nous sommes arrivés au terme. Donc oui, donnez-lui le micro.
C'est Dany Ngouba pour le compte Journal La Prospérité. Ma question est destinée à Monsieur Félix Prosper Mbex. Edem Kojo jouit du soutien de la MONUSCO. Hier, il a ouvert les travaux du comité préparatoire, mais ne craignez-vous pas que ce dialogue qui est en cours de convocation ne puisse pas être inclusif et de fait ne puisse produire rien de bon tel que la concertation de triste mémoire?
Oui, merci. D'abord, je tiens à préciser que Monsieur Edem Kojo, effectivement, est soutenu...